Bonjour à tous et à toutes. Au micro, David Chemla, qui a le plaisir de vous présenter le nouveau numéro de Chronique pour la paix. Bonjour à tous. Donc, nous sommes aujourd'hui à Paris, dans les studios, en présence de M. Gérard Inger, vice-président du CRIF. Et pour une fois, nous allons moins parler d'Israël et de la situation directement sur place, mais de la façon dont la situation est perçue outre-Atlantique, et notamment parce que Gérard Inger revient du congrès juif mondial qui s'est déroulé fin du mois d'avril dernier, où il a pu à la fois rencontrer beaucoup de dirigeants communautaires juifs américains et se rendre compte un petit peu du nouveau climat aux États-Unis suite à l'élection de Donald Trump. Donc Gérard, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que d'abord, vous pouvez nous parler un peu du Congrès juif mondial, une instance ancienne, et comment ça fonctionne ?
Une instance ancienne, mais qui est en même temps une instance moderne qui fonctionne techniquement très bien. J'ai été frappé par la qualité de l'organisation comme du retentissement qu'elle s'est créé pour son congrès et du nombre de participants qui dépassaient les 300 représentants des juifs venant du monde entier, aussi bien des grandes communautés Israël, États-Unis, France, que de petits pays dont certains ont été accueillis comme l'Albanie ou bien même le Bahreïn où la représentante aux Nations Unies du roi du Bahreïn qui est juive est venue parler de la situation locale et qui maintenant donc est membre du Congrès juif mondial.
Très bien. Et donc quel était le sujet sur la table cette année ?
Oh, il y a eu plusieurs sujets. Il y avait d'abord l'élection, la réélection plutôt de Ronald Lauder, le président, qui s'est faite à l'unanimité, ce qui n'était pas complètement acquis. Et puis ensuite, on a rencontré des représentants de l'UNESCO, la personne de sa directrice générale, Madame Bokova, et je dirais surtout de M. Guterres, qui est venu tenir un point de vue sensiblement différent de ceux des autres, de ses prédécesseurs aux Nations Unies, un point de vue beaucoup plus favorable à Israël, disant qu'il était hostile à toutes les condamnations mécaniques d'Israël aux Nations Unies. Et il a été soutenu sur ce point de vue par Nikki Haley, qui est également venue et qui est la représentante des États-Unis aux Nations Unies.
Oui, on a vu dans les réseaux sociaux, et effectivement, c'est son intervention à ce sujet souvent à la tribune des Nations Unies. Alors, tout ça nous ramène un petit peu à la situation américaine quelques mois, plus de 3 mois maintenant après la mise en place de la nouvelle administration. Est-ce que, au travers des contacts avec les communautés, les représentants des communautés juives américaines, vous sentez qu'il y a un climat nouveau sur à la fois Israël et sur la problématique du conflit ?
C'est compliqué. D'abord, les Juifs, comme d'habitude, ont voté majoritairement démocrate, dans les mêmes proportions qu'habituellement, 70%. Donc, on était à New York, une des villes américaines les plus hostiles à Trump. Bon, il faut naviguer avec ça pour Ronald Lauder, dont les sympathies personnelles sont plutôt du côté républicain, mais j'allais dire du côté républicain modéré. Je ne sais pas quels sont ses rapports, par exemple, avec quelqu'un comme John McCain, l'ancien candidat républicain, qui représente l'aile modérée du parti. Mais il est proche de ça. Alors, je dirais qu'avec Trump, bon, il fait avec, il fait un peu plus qu'avec. On a eu droit à un message enregistré de Donald Trump, très favorable naturellement à Israël. Et donc, Ronald Lauder prend en compte la réalité nouvelle des États-Unis, en étant, comme tout le monde, perplexe et interrogatif sur ce que peut être la politique de Trump, parce que pour l'instant, Personne n'en sait rien. On a vu les déclarations de Trump avant son élection, donc reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. On a vu accueillir Netanyahou et en disant une solution à deux États, un État, pourquoi pas, etc. On l'a vu nommer comme ambassadeur un militant des partis de droite, David Friedman, et en même temps, on voit Jason Greenblatt, dont Ronald Lauder est proche, tenir des propos beaucoup plus modérés. On voit le gendre de Trump, Jared Kushner, se mêler du dossier sans qu'on sache bien quel rôle il va jouer et comment. Et on voit Trump recevoir Mahmoud Abbas de manière tout à fait correcte et se rendre bientôt en Israël le 15 mai, je crois, ou le 22 mai. Ça signifie que pour l'instant, personne ne peut dire quelle politique Trump va adopter, même si il fait des déclarations affirmant qu'il va essayer de résoudre le conflit. S'il y arrive, tant mieux, mais je ne suis pas certain que ça soit aussi simple qu'il le croit.
Oui, je crois qu'il, confronté à la réelle politique, il a beaucoup évolué sur ça, pas mal de
Sur
sujets,
beaucoup de dossiers.
sur beaucoup de
Sur
dossiers.
beaucoup de dossiers.
Mais ce qui nous intéresse là, c'est aussi le rôle des Juifs américains par rapport à cette question-là. Et on a le.
Alors, cette question-là, je dirais qu'elle agite moins les Juifs américains que peut-être les Juifs européens. Il y a le facteur de la distance, il y a le facteur familial. Beaucoup de Juifs français ou européens ont de la famille en Israël. Pour les Juifs américains, c'est un peu différent. Donc la question, elle existe, elle est forte, mais elle est, je dirais, plus intellectuelle que physique, presque comme on peut le ressentir ici. Cela étant, la plupart des Juifs américains sont favorables à une solution à deux États et souhaitent que la paix arrive au plus vite sur cette base. Et le gouvernement Netanyahou ne dispose pas d'un soutien affiché comme ça peut l'être dans certains milieux européens ou français. Donc une situation un peu différente. Et puis des méthodes un peu différentes. J'ai pu rencontrer les gens de J Street.
J-Street, donc, est une association, une organisation juive américaine pour la paix, pour deux États, très active.
Absolument, qui est très active, mais qui emploie des méthodes qu'on ne pourrait pas utiliser en France, à savoir aider financièrement, par tous les moyens, des congressmen, sénateurs ou représentants, pour qu'ils interviennent en faveur de la paix.
De la même façon que l'EPAC le fait, c'est-à-dire ça fait partie du système de lobby américain.
Oui,
Tout le monde le fait aux États-Unis, quoi.
voilà. Mais on ne peut pas, en Europe, en tous les
Le
cas en
faire.
France, utiliser les mêmes méthodes. En ce qui concerne l'AIPAC, on l'a senti peut-être un petit peu en perte de vitesse, parce que justement, beaucoup de Juifs américains s'interrogent sur la politique de Benjamin Netanyahou.
Et pour revenir à Ronald Lauder, donc le président réélu du Congrès juif mondial, on a pu constater qu'il a, veille de la rencontre entre Mahmoud Abbas et Donald Trump à la Maison-Blanche, il avait organisé un dîner, c'est sorti dans la presse, avec Mahmoud Abbas. Donc on sent bien qu'il essaye, dans cette dynamique-là, de pousser en avant le président américain pour qu'il prenne des initiatives. Donc c'est quand même un signe aussi.
Tout à fait, et on l'a senti d'abord réaffirmant clairement la solution à deux États. Il y a eu quelques discussions au moment du Congrès.
Il y a eu un vote aussi en ce
Il y a
sujet.
eu un vote très clair, la quasi-unanimité en faveur de la solution à deux États, moins peut-être quelques abstentions, notamment du côté israélien, mais le vote était quasi unanime, et on sent bien que Ronald Lauder est très préoccupé par de trouver des solutions qui puissent convenir à tout le monde, y compris au sein du monde arabe. Le monde arabe qui était présent au dîner officiel du Congrès, puisque j'étais à la même table que l'ambassadeur du Maroc ou de Tunisie, par exemple. Et je vous ai parlé du Bahreïn.
Oui.
Donc il y a une présence arabe et une volonté de dialogue qui est réelle.
Très bien. Bon, bah, écoutez, c'est intéressant de voir cette évolution disons, de la communauté juive américaine toujours aussi engagée aux côtés d'Israël, mais pour aussi deux États. C'est important de le rappeler parce qu'on entend d'autres voix venant de Tel Aviv ou de Jérusalem en ce moment au sein du gouvernement qui prônent l'abandon de ce projet de deux États qui serait, comme nous le savons
On
tous,
voit bien d'ailleurs que
un risque majeur.
du côté israélien, il y a enfin des remous, des inquiétudes. On a vu le gouvernement israélien ravi de l'élection de Trump et pensant qu'il pourrait imposer ses vues. Et puis aujourd'hui, il s'interroge sur ce qu'il va pouvoir faire ou pas.
On le saura probablement un peu plus d'ici une quinzaine de jours, après le voyage de Donald Trump en Israël. Merci Gérard.
Merci.
Et donc, Shabbat Shalom à tous nos auditeurs. Vous pouvez nous contacter via notre site et assister à nos réunions. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.